ce matin dans Rencontre, on retrouve Paul Hambach qui nous raconte comment il a organisé les concerts de Michael Jackson en Belgique dans les années 80 et comment il a côtoyé toute sa vie des stars internationales de la musique au micro de Lise Benkemoun.
Paul Hambach, bonjour.
Bonjour, shalom, Raverim.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, avec le succès incroyable en Belgique comme partout dans le monde de Michael, le biopic qui lui est consacré donc à Michael Jackson, j'avais envie, Paul, que vous nous racontiez cette histoire incroyable des concerts de Michael Jackson que vous avez organisés en Belgique.
J'avais fini mes études d'interprète anglais-espagnol, de base français, et je me suis présenté au marché commun pour devenir un grand interprète de renommée internationale, et ils m'ont répondu que j'avais le tempérament mais pas la technique. Alors, comme je jouais de la musique le soir dans les bars et dans les cafés, et j'avais déjà organisé des concerts à l'université avec John Lee Hooker, Muddy Waters, Freddie King, enfin tous des grandes légendes du blues qui sont devenus des stars, je me suis décidé à faire James Brown. C'est important que je vous raconte l'histoire de James Brown parce que ça, c'est le tenant et l'aboutissant à l'histoire de Michael Jackson. Bon, alors James Brown, c'était un grand succès en février. J'ai fait deux concerts, un l'après-midi et un le soir. J'avais jamais fait des grands concerts. Et c'était un tellement grand succès que l'artiste m'a invité dans sa loge, c'est-à-dire la mienne. Et il m'a dit, toi, tu fais ça très bien, tu es très, 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 très bon, tu dois devenir mon agent commercial et mon agent musical aussi, parce que tu comprends très bien ce que moi je fais en musique, etc. J'avais expliqué la basse, le syncopé, la batterie pour le funk qui découle du rythme and blues, enfin, toute une histoire très longue. Bref, James Brown me confie toute sa carrière pour toute l'Europe, et tout le monde devient fou en Europe, et tout le monde entend parler d'un petit juif d'Anvers, il s'appelle Paul Hambach, et il va leur montrer qu'est-ce que je sais faire. Et j'ai joué dans Lee, on a fait James Brown à Londres, on a fait James Brown en Allemagne, on a fait en Autriche, on a fait toute l'Europe. C'était un succès sans précédent. Et comme j'avais fait James Brown, tout le monde dans le monde révolutionnaire, qui est le monde du show business, a entendu mon nom passer. Et les Jacksons, qui étaient en tournée à PC, Do You Know, avec un certain Michael Jackson, voulaient jouer à Bruxelles et se sont adressés à l'épaule. Fais-nous le concert. J'ai dit, oui, mais vous n'êtes pas tellement connu en Belgique à cette époque-là. Non, on verra bien parce qu'on joue 20 000 personnes à Londres. On peut prendre le truc. Bref. Le concert est une catastrophe totale. On vend que 1 000 billets. Le jour avant, il me téléphone, on va pas jouer, etc. C'est peut-être sympa, mais, ça va pas marcher. Et c'est annulé. Alors, on a annulé, ils m'ont tout payé. Des gens très sérieux. Et ça, c'est mon premier contact avec la famille Jackson au grand complet. Ça, c'est très important.
Et ça, c'est quelle année, Paul?
Ça, c'est en 72, 73.
D'accord. Eh oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut expliquer. Pourquoi ils n'ont pas encore tellement de succès. Et je veux qu'on revienne 2 minutes sur ce que vous avez dit sur James Brown, parce que, évidemment, vous n'êtes pas juste organisateur de concerts à l'époque. Vous êtes surtout pianiste de blues.
Et chanteur, ça, je suis devenu parce qu'il fallait bien. Et je chante le blues, comme Michel Jonas et comme tant d'autres. J'ai une tradition, comme mon grand-père était un klezmer musicien et mon père était un chanteur d'opéra qui a sauvé sa vie grâce à son don vocal. Et donc c'est important, la musique c'est une chose très importante. Et je ressens le blues comme un vrai juif de Pologne qui sent que il a ça en lui et ça doit sortir. Et chez moi, c'est sorti par le blues, mais ça aurait pu être le flamenco, hein, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bref, une musique avec une émotion profonde qui se transmet à un public qui est captivé par l'émotion, la petite flamme qui brûle. Mais ça, c'est l'histoire de James Brown. C'était le plus grand danseur de l'époque sur scène. Il donnait un spectacle époustouflant. Et les Jackson 5 font ça aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand les Jackson 5 Michael Jackson sort des Jackson 5. Il est patronné par les firmes de disques, etc. Il fait un hit avec Ben, etc., etc. Il fait une carrière fulgurante. Et puis, il y a l'intervention de Quincy Jones, que je connaissais personnellement moi aussi, parce qu'il avait déjà fait Ray Charles en disque, etc. C'est un type qui comprenait très bien la musique. Il a ajouté des sons modernes. Bref, le succès de Michael était là. Et comme j'avais déjà travaillé avec des organisateurs qui avait fait toute la tournée de Michael Jackson, toute la tournée mondiale de Michael Jackson. Ils ont dit, allô, mais maintenant on doit faire la Belgique avec Paul Hambach et Michel Perle, qui était mon associé, un monsieur très capable d'ailleurs, qui est toujours en vigueur. Donc c'est comme ça que de James Brown, on est arrivé à Michael Jackson. Et de Michael Jackson, le reste, c'est l'histoire.
Alors, Michael Jackson, premier concert, c'est 1988, c'est ça?
Ouais, environ, je me rappelle plus, hein, il y a prescription.
D'accord. Mais ensuite, il est revenu deux fois en Belgique et toujours avec vous, Paul.
Oui, c'est un monsieur très fidèle et c'est ce qu'on aimait dans le business des concerts. On était une grande famille. Il y avait un triangle, l'organisateur qu'on appelait promoteur, il y avait l'artiste et il y avait le public. Et on était indissociables. C'est-à-dire, je donne un exemple, moi j'étais là à l'arrivée, j'étais là au concert, j'étais là avant le concert, j'étais là pendant les tractations, j'étais là, je donnais mon avis et il me demandait toujours combien de public peut-on faire? Alors je donnais mon idée, ce que je sentais, c'était tout mon âme que je mettais dans la passion et je savais, je sentais assez bien. Le loto, je sens pas, mais les artistes, ils font du bon, ça je sais. Et alors, il me demande quel prix peut-on demander. Alors, Monsieur Perle me conseillait très bien. Et on arrivait à un accord. Et alors, la machine se mettait en marche. Et Michael Jackson était épaulé comme personne d'autre. Il avait un producteur légendaire qui s'occupait de tout ce qui était technique, surtout avec le moonwalk, c'est tout un bazar. Et la logistique, le déplacement, et blablabla, c'est un truc. Et c'était vraiment très organisé. Il avait sa propre cuisine. Il fallait pas s'occuper de ça. Et j'avais annoncé qu'il invitait tous les gens de sa firme de disques Sony, tous les représentants, à boire un verre avec lui dans la grande loge et du caviar. Il a offert du caviar.
Alors c'est ça qui est vrai, qui semble un peu aujourd'hui complètement avoir changé, Paul Hambach. C'est qu'à l'époque, vous aviez le temps en fait de faire visiter Bruxelles à l'artiste, d'aller boire des coups avec lui, de passer la soirée. Vous l'avez fait notamment avec Tom Jones, avec Santana
Oui,
et
avec Paul Simon, avec beaucoup de gens, beaucoup d'artistes étaient, disons, c'était une bande de copains où la relation de l'artiste débarquait et demandait où il est Paul, où il est Monsieur Hambach. Et j'étais, ah, ils venaient dans ma voiture, ils voulaient tous venir au lieu d'aller dans la limousine, ils trouvaient ça marrant. Mais ça, hélas, hélas, trois fois hélas, donc encore une fois hélas. Ça n'existe plus. Maintenant, ce sont le monde du corporate. Le corporate en fait un contrat mondial avec un artiste, les Rolling Stones par exemple. Et alors cette machine se met en marche et les Rolling Stones, ils arrivent, ils descendent, ils débarquent, ils vont jouer, ils reviennent et ils repartent et ils disent juste à peine bonjour à l'organisateur et ils ne connaissent plus l'organisateur, malheureusement.
C'est dommage, c'est vrai.
Et
Et qu'est-ce d'autre qui a changé véritablement dans ce monde de la musique qui a été bouleversé, hein, Paul Hambach?
oui, d'abord, tous les bouleversements sont arrivés dans les années 2001-2002 avec la venue des grandes sociétés comme Live Nation et Ticketmaster. Il faut savoir que Paul Hambach, moi-même et Michel Perle, nous avions déjà un plan. On avait une plateforme de tickets pour les concerts à Forêt nationale. Ça s'appelait Ticket Club. On avait une organisation de concerts qui s'appelait Make It Happen, très 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 importante. On avait une agence de pub pour tous les concerts qui avait à voir avec Disney, parce que quand on fait des concerts Disney sur glace, on a les contacts avec Coca-Cola, les banques, Campari, le lait, tout le bazar. Ah, il faut les mêler dans toutes ces histoires. Et puis, on avait également Forêt nationale, on était une partie de la salle. Et donc, les Américains, Live Nation, ont débarqué et ils ont pris le potin téléphonique, ils ont trouvé, c'est pas vrai, mais ils ont trouvé A de Amba, et ils ont commencé à nous approcher. Ils ont dit, écoutez, on a déjà acheté la Hollande, la Scandinavie, etc. Je me suis dit, if you can't beat them, join them, parce qu'ils allaient offrir des sommes astronomiques à tous les artistes. Donc, ce qui ne me permettait pas de faire mon Spielerein avec tous ces artistes que je connaissais bien et qui voulaient bien rester avec moi, mais qui recevaient des offres extraordinairement, presque à des sommes astronomiques. Et ça, c'était pas comme ça quand, tant que j'ai fait Michael Jackson, ça n'a jamais été comme ça. Ça a été toujours le triangle que j'appelle organisateur, promoteur, artiste et public. Tout dans l'intérêt du public, en harmonie avec les vœux et ce que l'artiste voulait, et l'organisateur qui devait aussi vivre de ça.
Il paraît, Paul, que pour le dernier concert de Michael, vous avez dû faire preuve d'imagination parce que vous aviez besoin que ça soit juste à côté d'un aéroport parce que il se déplaçait simplement en jet privé. Racontez-nous ça.
Ben oui. Ah bon, on avait fait Winter, qui est une prairie. À un moment, quand l'occasion se fait qu'il fait une tournée, une grande tournée mondiale, le problème se pose, où va-t-on faire ça? Et j'ai pensé qu'il valait mieux, je pensais qu'il valait mieux faire ça près d'un aéroport, ce qui facilite le fait que les artistes de ce genre, comme Michael Jackson, Frank Sinatra, ne restent pas dans la ville où ils jouent. Ils rentrent chez eux, où ils ont déjà tous leurs valises et tout leur bazar. Donc, ils ne doivent pas tout ressortir et entrer et sortir. Donc, ils ont un jet qui les amène soit de Paris ou soit de Londres. Ici, c'était Paris ou le Ritz-Carlton, où Lady Di était là également. Et ça les amène donc en aéroport, et à Ostende, il y a un aéroport, et le terrain, l'hippodrome, est à un quart d'heure de l'aéroport. Donc, logistiquement, c'était formidable d'amener Michael Jackson de l'aéroport sur scène.
Alors, si je me trompe pas, en fait, il y avait déjà un concert qui avait été annulé, Paul, parce que, en fait, Lady Diana était morte la veille au soir, et donc Michael, qui était déprimé parce qu'il la connaissait, vous avez dit, non, je peux pas faire le concert, je peux pas danser, je suis pas en état, et vous aviez dû le convaincre de faire, en fait, une autre date à Ostende.
C'est pas tout à fait ça.
Ah.
Quand on a su tout était sur place, la sono, etc., il y avait déjà 60 000 personnes qui étaient dehors, qui attendaient pour entrer.
Wow.
Quand on a appris à 4 heures, à l'ouverture des portes presque, que il n'allait pas venir et que j'étais furibax, ou furieux, je sais pas comment on dit ça, mais j'étais complètement, mais j'ai perdu tous mes cheveux ce jour-là.
Ouais, oui, c'était angoissant, 70 000 personnes qui attendent, ouais.
Ouais. Et là, je lui ai dit, mais c'est pas ta mère, j'avais des. C'est pas ta soeur, t'es ma femme. Ouais, mais non, non, je sais pas, je sais pas, je sais pas mettre une ambiance canon et danser et me donner à fond en pensant à ma copine Lady Di, qui est logée également au Ritz-Carlton. Donc, et comme il vient tous les jours au Ritz-Carlton, de son point de départ à son point d'arrivée, il avait vu Lady Di, ils avaient peut-être mangé, parlé ensemble. Donc ils étaient liés parce qu'ils se connaissaient, parce qu'ils faisaient les œuvres caritatives de la reine, de la princesse et de la reine quand ils jouaient à Londres. Donc c'était un tandem bien, bien sympathique. Et quand il a dit qu'il n'allait pas venir, il a directement dit, on va trouver une nouvelle date. Et on laisse tout le matériel, parce que logistiquement, c'est tout un remue-ménage, hein. Il
Oui.
faut enlever et remonter. Il y a 12 cam 15 camions et encore tout le bazar. Donc, c'est pas simple. Et pour bouger tout ça en Europe, donc rien n'a bougé. Tout est resté. Et il est venu 4 ou 5 jours là. J'ai annoncé au public, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, ça, j'ai pas dit. J'ai employé mon art de Boogie Boy, le chanteur de blues, en disant, je ne peux pas vous faire entrer parce que le concert, hélas, hélas, 3 fois hélas, n'aura pas lieu. Et pourquoi? Parce que, et j'ai donné la raison principale, mais, il y a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le concert aura lieu à la date que je vais vous donner, que le soir, quand on aura fini de voir logistiquement comment on peut goupiller une date dans un rush pas possible. Donc,
Effectivement, ils n'ont pas attendu longtemps puisque c'était le 31 août le concert annulé et le 3 septembre 97, il a effectivement joué dans l'hippodrome d'Ostende.
Oui. Et il avait un bandeau, un brassard de deuil, avec une grande. Et sur tous les écrans, il y avait Lady Di. Et il était bien en forme, il est venu avec l'avion et tout, comme tout était prévu. En plus, le public ne devait pas repayer pour ses déplacements parce que les trains, ça roulait également pour aller au concert, le tram également. On a obtenu pas mal de facilités pour faire que Michael, qui est le plus grand, je répète, le plus grand des artistes que j'ai jamais connu sur scène, c'est le plus grand entertainer que je suis sidéré, c'est le plus grand, il danse comme un dieu grec, il est fort, il est entertaining, bref, c'est le spectacle total.
Pour finir, Paul Hambach, ce que j'ai trouvé assez épatant à la projection de Michael quand je suis allée le voir, c'est que dans la salle, il y avait vraiment des gens de toutes les générations et qui chantaient les chansons de Michael Jackson en même temps. Et donc, des enfants d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui qui évidemment n'ont jamais connu Michael vivant comme nous, et qui sont toujours aussi fans, qui connaissaient tous les albums par cœur. C'est ça pour vous la marque vraiment des grands musiciens, c'est d'arriver à transcender le temps comme ça.
C'est la pérennité de cet artiste. C'est un artiste moi j'appelle ça un artiste interplanétaire. Que ce soit mon petit-fils à Tel Aviv, que ce soit mon fils Nathan, qui est aussi un artiste, et ils ont, quand ils voyaient même mes deux petites filles, Michael Jackson, ils se mettent à danser, ils se mettent à bouger, il y a un sourire. L'impact est total et ça couvre moi-même le vieux Hambach de 78 ans et tous les amateurs de musique comprennent exactement la portée de l'importance que revêt Michael Jackson dans le monde de la musique et comme artiste complet. Un artiste complet, c'est un artiste qui produit sur scène un show spectaculaire, qui danse spectaculaire, qui a un entourage spectaculaire. Bref, c'est la perfection.
C'est pas difficile, Paul, de rencontrer des gens qui, comme ça, n'ont pas des vies normales, en fait. Même sans aller jusqu'à Michael Jackson, beaucoup des artistes que vous avez cités tout à l'heure, James Brown, Carlos Santana, Tom Jones, c'est pas des gens qui ont des vies normales. Qu'est-ce qui vous fascine le plus quand vous les rencontrez?
Ils sont dans Tom Jones, par exemple, chante, il a un timbre qui parle d'une émotion et qui partage avec le public, et il vous parle comme un être humanoïde. Il vient avec moi, bon, on est allé au Corby, on va boire un verre, on va manger Santana, on va manger du homard, Diana Ross. Non, les contacts sont. Était très bon. Il y a peut-être Joe Cocker était tellement mal dans sa peau que ça n'allait pas bien. J'ai dû le pousser. Et parfois, je dois me mêler de façon psychologiquement pour faire marcher le chemin biblique. Mais c'est très rare. Et le plus grand l'artiste est, moins de problèmes que vous avez. Je répète, plus grand l'artiste est, plus qu'il est connu. Les artistes qui montent peuvent vous donner du fil à retordre, comme Duran Duran, Simon Le Bon, et cela joue un peu sage. J'ai encore vous raconter l'histoire de Peter Gabriel, par exemple,
Oui.
un très grand artiste, Genesis. Et puis il fait son concert à Forêt, c'est un succès canon. Et à la fin, il sort de scène puisque c'est la fin du spectacle, et le public en veut plus, en veut encore. Le public casse presque la baraque pour avoir une chanson en plus. Ben j'interviens, qu'est-ce que je fais? J'entre dans le bar et je connais bien Peter puisque j'étais là au départ avec Genesis, etc., etc. Et je lui dis, mais tu dois monter sur scène, ton public t'attend. Vous savez ce qu'il me répond? Vous voulez
Bah
savoir?
oui.
Il me dit, mais un poète ne vient pas raconter de nouveau le même poème à la fin de la chanson. Je suis devenu fou. On a dû évacuer la salle.
Ah, vous n'avez pas réussi à convaincre alors,
Non,
Paul.
non, je peux pas être gagnant à chaque fois.
Voilà. Est-ce que vous avez regretté quand vous avez vendu votre société?
C'est une bonne question. Disons que c'était dans l'air du temps. Tous mes collègues avec qui j'avais déjà fait James Brown, eux aussi, ils se sont vendus, etc. Donc, notre équipe est restée soudée, mais n'était plus la même. C'est comme le Club Med quand c'est devenu une très grande société
Ouais.
internationale. C'était plus Gérard Blic, c'était pas la Mahanais, hein, c'était
Ouais.
autre chose.
Ouais.
Et elle est bonne, la comparaison. Hein.
C'est
C'était
vrai.
plus le Mahanais.
Mmh.
C'était plus le Kumsitz, c'était beaucoup plus corporate, plus sérieux.
Donc, il fallait passer la main. C'était plus votre caractère, en fait.
Mais il y avait enfin, c'était différent. Mais je suis resté que 10 ans finalement. J'ai fait mes 10 ans à Live Nation, puis j'ai décidé de me retirer pour m'occuper de ma petite famille.
Et de votre carrière quand même, Paul.
Pardon?
Et de votre carrière à vous aussi.
J'appelle pas ma vocation n'est pas une carrière. Ma vocation est de faire comme Louis Armstrong, c'est d'amener un brin, un sourire sur les lèvres du public et que le public sorte avec ce sourire aux lèvres. Alors ma mission sera accomplie. The wonderful world.
En tout cas, Paul, pour conclure, je crois que vous avez réussi quand même à passer le virus de la musique très bien dans votre famille, parce que la transmission dans le peuple juif, c'est toujours très important. Et je crois que là, la transmission de la musique avec Marilyn, avec Nathan, avec la suite, je crois qu'elle est bien passée.
Très bien votre remarque, et j'y ajoute que quand je chante en Chine, par exemple, je fais des tournées en Chine, j'en ai déjà fait 6. Les Chinois, ils en raffolent. Et ce que je vois dans ça, c'est je vois mon grand-père en Pologne, Klezmer, avec son cheval et ses instruments, aller de Shtetl en Shtetl pour faire des bar mitzvah et des mariages, et je me sens porté par cette immuable vision du fait de le rendre ouf, et ça me procure une sensation extraordinaire.
Eh ben, colacavode, comme on dit chez moi, Paul Hambach, parce que c'est quand même des histoires extraordinaires et on est content de connaître la personne qui les a vécues, et que vous soyez là pour nous les raconter, avec verve, c'est toujours sympathique. Merci beaucoup.
Et je reste à Ravert.
Eh oui, bien sûr. Et on est ravis. Donc, continuez, admis à stream, comme on dit chez nous. Bonne journée, Paul Hambach, à très vite.
Shalom, Rabbi.
Merci à vous.